Nous connaissons tous l'histoire de Jésus, l'histoire de sa vie, l'histoire de tous les miracles qu'il a accomplis, l'histoire de sa naissance, l'histoire de sa mort. Et bien entendu, parce que nous connaissons cette histoire, elle nous est familière. Et lorsque nous la lisons, nous n'avons pas l'impression de découvrir quelque chose de particulier. Cependant, quand on regarde l'histoire de Jésus, cette histoire est pleine de choses intrigantes, étranges, bizarres. L'histoire de Jésus est remplie d'événements incroyables. Mais parce que nous les connaissons, nous les avons perdus de vue. Et puisque nous sommes dans l'époque de Pâques, j'aimerais reprendre quelques éléments de la vie de Jésus qui sont assez extraordinaires et qui devraient frapper notre attention. Vous avez remarqué, quand Jésus est né, il n'y avait personne pour accueillir le Christ à sa naissance. Alors je sais que ce n'est pas Noël, mais reprenez, voulez-vous, le livre de Luc au chapitre 2. Nous lirons simplement quelques versets pour nous remettre dans l'ambiance de la naissance de Jésus. Évangile selon Luc, chapitre 2, verset 6. Évangile selon Luc, chapitre 2, au verset 6, il est écrit ceci. Pendant qu'ils étaient là, il est question de Joseph et Marie, le temps où Marie devait accoucher arriva. Et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y a plein de gens à Bethléem. Plein de gens sont venus, mais il n'y en a pas un qui est au courant de la naissance du Sauveur. Et pourtant, les prophéties sont là. Elles ont été étudiées depuis très longtemps. Pour qu'il y ait des gens témoins de la naissance de Jésus, il faudra que les anges aillent chercher les bergers. Il faudra aussi que les anges aillent chercher les mages et soient cette étoile qui les conduise jusqu'à l'endroit où Jésus se trouve. Quand Jésus vient au monde, il n'y a personne pour le recevoir. Il naît tout seul, alors qu'il est venu en fait pour le monde entier. C'est une situation incroyable d'ailleurs parce que les prophéties sont claires. Les prophéties d'ailleurs étaient claires dans l'esprit des chefs religieux de ce temps. Quand on leur demande où doit naître le Sauveur, ils savent où il doit naître. Et ils ont les prophéties sous les yeux, ils savent aussi à quel moment il doit naître. Mais quand Jésus vient, personne n'est là pour le recevoir. Personne. Par contre, quand Jésus est crucifié, tout le monde est là. C'est le grand spectacle. Regardez dans l'évangile de Matthieu au chapitre 27, quelques versets qui nous replongent dans cet événement incroyable. Évangile selon Matthieu, chapitre 27. J'aimerais lire avec vous à partir du verset 39. Évangile selon Matthieu, chapitre 27, verset 39. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant, « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient, « Il a sauvé les autres, il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix, et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il l'aime. Car il dit, je suis fils de Dieu. » Les brigands crucifiés avec lui l'injuriaient de la même manière. Il y a une foule énorme qui est là pour être témoin de la crucifixion de Jésus. Les passants l'injurient. Les chefs religieux se moquent de lui. Ceux qui sont crucifiés de chaque côté de lui, eux aussi se moquent de lui. Il y a une foule énorme. L'évangile de Luc nous rapporte aussi cet événement-là. Regardez ce texte dans l'évangile de Luc au chapitre 23, à partir du verset 26. Évangile selon Luc, chapitre 23, à partir du verset 26, il est dit ceci. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène, qui revenait des champs, et ils le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus. Il était suivi d'une grande multitude de gens et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Vous avez remarqué, le texte nous dit, il était suivi d'une grande multitude de gens. Tout le monde est là, tout Jérusalem est là pour la crucifixion. Personne n'est là pour sa naissance. Mais tout le monde est là pour le grand spectacle de la crucifixion de Jésus. Il y a là les chefs religieux qui sont enfin arrivés à leur fin. Il y a tous ces dignitaires qui veulent se débarrasser de Jésus. Et puis il y a aussi toute la populace de Jérusalem, tous ceux qui vont être là pour tous les événements particuliers qui vont attirer les curieux. Mais il y a aussi des gens qui connaissent Jésus. Il y a des lépreux à qui Jésus a dit « Je le veux, sois pur ». Il y a des malades à qui Jésus a dit « Prends ton lit et marche ». Il y a des aveugles à qui Jésus a ouvert les yeux. Il y a des démoniaques pour qui Jésus a menacé les démons et les a chassés. Et puis il y a Lazare qui était mort et qui est vivant. Il y a les disciples qui se cachent, les femmes qu'ils connaissent. Une foule incroyable de gens, soit amis de Jésus, soit opposés à Jésus. Certains espèrent que c'est la dernière fois qu'ils le voient. D'autres craignent que ce soit effectivement la dernière fois qu'ils le voient. Et ces gens qui ont été guéris par Jésus, peuvent se poser la question, mais enfin, il m'a guéri, il m'a sauvé, il m'a délivré de l'ennemi. Est-ce qu'il ne peut pas faire quelque chose pour lui-même maintenant ? Il y a là deux disciples, entre autres, que nous allons retrouver plus tard et qui vont voyager vers Emmaüs. Ces deux disciples sont là et ils voient sous leurs yeux s'effondrer tout leur espoir. Eux aussi connaissent les prophéties. Que pensent donc tous ceux qui ont entendu Jésus prêcher, qui se demandent, mais enfin, ne peut-il rien faire pour lui-même maintenant ? Qu'il soit ennemi de Jésus ou qu'il soit ami de Jésus, tous se demandent, mais qu'est-ce qui se passe ? Et la foule est là, et la foule est nombreuse. Personne n'est là pour acclamer son arrivée, tout le monde est là pour acclamer son départ. C'est comme si vraiment personne n'en voulait de ce Jésus-là. Maintenant, quand on pense à 2-3 jours plus tard, il n'y a de nouveau plus personne. Au moment de la résurrection, personne n'est témoin de sa résurrection, ou presque. Regardez dans l'Évangile selon Marc au chapitre 16. Évangile selon Marc, chapitre 16. J'aimerais lire avec vous à partir du verset 2. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent, ce sont les femmes dont il est question plus haut, au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, « Qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre ?» Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, « Ne vous épouvantez pas, vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié, il est ressuscité, il n'est point ici, voici le lieu où on l'avait mis. » Il n'y avait personne, les femmes ne sont pas au courant. Tout le monde était là pour la crucifixion, mais quand Jésus est ressuscité des morts, presque personne l'a vu. Quelques soldats, c'est vrai, eux ils sont terrorisés et traumatisés à vie. Ils doivent subir des thérapies jusqu'à la fin de leur jour pour s'en sortir de ce traumatisme qu'ils ont vécu ce jour-là. Les disciples, ils ont tellement peur, ils se sont enfermés, de peur qu'on leur réserve le même sort qu'à leur maître. Les Juifs, ils sont affolés parce qu'ils ont entendu les soldats. C'est la panique, personne n'ose venir voir. Qui a vu Jésus ressuscité ? Personne. Les soldats ont fermé leurs yeux tellement ils étaient éblouis par la splendeur divine. À la résurrection, c'est comme à la naissance. Presque personne. Mais quand il s'agit de le mettre à mort, tout le monde est là. Pourtant, qu'est-ce que sa mort s'il n'y a pas derrière la résurrection ? Tous ces gens qui pensent avoir vu Jésus pour la dernière fois sont tous étonnés. Soit parce qu'ils espéraient se débarrasser pour toujours de lui, soit qu'ils espéraient qu'il allait passer au travers de cette épreuve et ne jamais mourir. Mais lorsque Jésus ressuscite, il n'y a plus personne de nouveau. Et pourtant, le texte continue dans l'évangile de Marc au chapitre 16. L'ange parle à ces femmes et dit au verset 7, « Mais allez dire à ses disciples et à Pierre, « qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez comme il vous l'a dit. Jésus a donné un rendez-vous à ses disciples, mais eux, ils l'ont complètement oublié. L'ange doit leur rappeler, n'oubliez pas, et surtout dites bien à Pierre. Ils ont un rendez-vous en Galilée. C'est là qu'ils doivent rencontrer Jésus. Heureusement que l'ange l'a rappelé, sinon personne ne s'en serait souvenu. Tournez quelques pages dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26. Matthieu chapitre 26, verset 31. Matthieu chapitre 26, verset 31. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Même si tu étais pour tous une occasion de chute, tu ne seras jamais pour moi. » Ce rendez-vous que Jésus donne aux disciples, il ne leur a pas donné des années avant, c'est juste quelques heures avant sa mort. Mais Pierre est tellement occupé par autre chose, il a manqué le rendez-vous. Il était occupé à reprendre Jésus, à remettre Jésus sur les rails. Il est déprimé, le pauvre Jésus, pense-t-il. Et ce faisant, il a manqué l'essentiel. Jésus lui avait donné un rendez-vous en Galilée et il avait dit, « Après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Heureusement que l'ange l'a rappelé. Je ne sais pas si Pierre aurait eu le courage d'aller à ce rendez-vous, même s'il s'en était souvenu, après ce qui s'est passé quelques heures après. Vous vous souvenez, Pierre? Pierre va avec imprécation et juron dire, « Cet homme, je ne le connais pas, je ne l'ai jamais vu. » Mais il a un rendez-vous avec Jésus. Et l'ange le rappelle, le rendez-vous, c'est pour tous ses disciples et aussi pour Pierre. Serait-il venu? Pour nous aussi, la question se pose, quand est-ce que nous avons rencontré Jésus la dernière fois? Quand est-ce que nous avons rencontré Jésus la dernière fois? Est-ce que c'était un Jésus vivant ou un Jésus mort? Un Dieu mort, pour nous, ne porte aucun espoir de vie éternelle. Jésus donne un rendez-vous à ses disciples parce que ses disciples ont besoin de rencontrer le vivant. Ils ont vu le mort. Ils ont vu comme tous les autres qui étaient là pour le spectacle de la crucifixion. Mais l'important maintenant, c'est de voir Jésus, de voir le vivant, celui qui était, qui est et qui vient. Ils ont besoin de ce rendez-vous, il est essentiel pour eux. Alors, pour nous aussi, ce rendez-vous est essentiel. Quand donc avons-nous rencontré Jésus la dernière fois? Comment était-il, vivant ou mort? L'apôtre Paul rappelle dans la première épître aux Corinthiens que si Jésus est resté mort, notre foi n'a aucun sens. Regardez avec moi ce texte dans 1 Corinthiens chapitre 15. 1 Corinthiens chapitre 15, au verset 17, il est écrit ceci. 1 Corinthiens 15, verset 17. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Vous êtes encore dans vos péchés, et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. La mort de Jésus est essentielle, elle fait partie du plan du salut dans sa globalité. Mais à quoi servirait sa mort s'il n'y a pas la résurrection qui suit? Ça n'a aucun sens. Et c'est la raison pour laquelle rencontrer Jésus au calvaire est important, mais le rencontrer aussi vivant est absolument nécessaire. L'histoire de Jésus ne peut pas s'arrêter à la croix. L'histoire de Jésus est une histoire qui continue parce que Jésus était, il est et il sera toujours. Il est Dieu parmi les hommes. Il est éternel. Les disciples doivent donc le rencontrer, c'est vrai, au pied de la croix pour comprendre l'immensité de l'amour qu'il exprime pour l'humanité. Mais ils doivent aussi le rencontrer vivant, après sa résurrection. Un autre Jésus. Jésus a accordé ses rendez-vous à ses disciples. C'est vrai que Jésus a rencontré ses disciples en Galilée. Mais il a aussi rencontré les deux disciples d'Emmaüs. Ils avaient un rendez-vous avec lui. Eux ne le savaient pas, mais Jésus les a rencontrés. Il s'est assis à table avec eux et leur a montré ses mains. Mais c'est lui le ressuscité. Ils étaient avec le Jésus vivant, qui leur a montré dans les Écritures qu'il était venu, pas seulement pour mourir, mais il était venu pour vivre pour eux. Il y avait un rendez-vous aussi avec Thomas. Thomas, qui ayant rencontré Jésus, a dit « Mon Seigneur, mon Dieu ». Il était nécessaire que Thomas ait ce rendez-vous, c'était important. Pierre a aussi eu ce rendez-vous au bord du lac, où Jésus lui a posé cette question « Pierre, m'aimes-tu ?» Et il lui a posé cette question autant de fois que Pierre avait juré qu'il ne le connaissait pas, pour lui montrer qu'au fond de son cœur, il y avait un amour que Jésus connaissait et qu'il a fait ressortir. Et puis, il y a eu le rendez-vous aussi avec Jean, l'apôtre Jean. Un rendez-vous particulier, un rendez-vous qu'il a eu à Patmos, lorsque Jésus s'est présenté à lui. Nous le savons parce qu'il en a parlé dans ce livre qui s'appelle l'Apocalypse. Révélation. Révélation de Jésus-Christ. Jean a eu aussi ce rendez-vous avec le vivant. Dans le premier chapitre de l'Apocalypse, il en parle. Par exemple, Apocalypse chapitre 1, verset 12, il est dit ceci. C'est Jean qui parle. Je me retournai pour savoir quelle était la voix qui me parlait. Et après m'être retourné, je vis 7 chandeliers d'or. Et au milieu des 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe, ayant une ceinture d'or sur sa poitrine. Verset 17. Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, « Ne crains point, je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. » Jean aussi a eu son rendez-vous avec le vivant, un rendez-vous particulier au travers des visions qu'il a eues et qui concernent le vivant dans la dernière phase du plan du salut qu'il est venu mettre sur pied, sur terre. Ce rendez-vous, il en est question un petit peu plus loin encore dans le même livre de l'Apocalypse, au chapitre 14. Chapitre 14, au verset 1er. Jean voit encore le vivant. Apocalypse chapitre 14, verset 1er, il est dit « Je regardais, voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Dieu, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. » Jean ici voit ce rendez-vous particulier. Ce n'est plus un rendez-vous au bord du lac, c'est un rendez-vous sur la mer de verre. Un rendez-vous pour lui qui voit Jésus le vivant, celui avec qui il était sur terre. Mais c'est aussi un rendez-vous pour tous ceux qui, comme Jean, espèrent le rendez-vous final. Nous avons la possibilité d'ailleurs, comme Jean et comme les autres, de le rencontrer chaque jour. Regardez dans Ésaïe au chapitre 50 ce que le prophète nous dit de sa part. Ésaïe chapitre 50, au milieu du verset 4, il est écrit « Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute comme écoutent des disciples. » Chacun des disciples de tous les temps a la possibilité d'avoir ce rendez-vous avec Jésus chaque jour. Et pour nous, ce rendez-vous, c'est bien entendu le rendez-vous avec le vivant de nouveau. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Corinthiens, rappelle que pour nous, nous ne le connaissons plus de la même manière. C'est sûr, nous avons été avec lui lorsqu'il faisait les miracles. Nous l'avons vu dans la barque, nous l'avons vu calmer la tempête, mais aujourd'hui, dit l'apôtre Paul, le contact que nous avons avec Jésus, il est tout à fait différent. C'est un contact avec le vivant. Ce Jésus, il est autre. Il remplit pour nous aujourd'hui un ministère d'intercession en vue du dernier rendez-vous. Parce que nous avons, nous aussi, un rendez-vous avec lui. Ce rendez-vous, il l'a donné, encore une fois, dans l'évangile de Jean, au chapitre 14, dans un texte que nous connaissons par cœur, au début du 14e chapitre de Jean, il est dit « Lorsque je m'en serai allé, et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai, je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. » Jésus fait la promesse d'un prochain rendez-vous, pas seulement pour les 12, mais pour tous les disciples de tous les temps, qui auront pris cette habitude de rencontrer le vivant de jour en jour et d'avoir avec lui un contact particulier, un contact différent et même supérieur au contact qu'avaient les disciples qui marchaient avec lui sur les chemins poussiéreux de la Galilée. Ce rendez-vous, nous ne voudrions pas le manquer. Ce rendez-vous nous est rappelé par l'Évangile. Il nous est rappelé par les signes des temps. Il nous est rappelé parce que nous lisons dans sa parole les promesses qu'il concerne. Et même si nous avons l'impression que, comme Pierre, nous l'avons renié mille et une fois, sa parole nous dit aujourd'hui que nous avons un rendez-vous avec lui lorsqu'il reviendra. Alors ce rendez-vous, en fait, il est la suite logique de tous ces rendez-vous quotidiens que nous voulons avoir avec lui dans sa parole et par la prière. Et que personne ne manque ce jour-là.